Eh bien, bonjour pour ces 9e Imaginales et merci de venir. Pour moi, c'est un moment un peu émouvant ce matin parce que d'abord, c'est l'occasion de vous présenter mes excuses parce que j'arrive un peu en retard. Ne vous moquez pas, un peu de générosité. Je suis parti, bien sûr, naturellement, comme d'habitude, au Magic Mirror numéro 1. Et quand j'ai vu que ma place de modératrice était occupée, je ne me suis pas fâché parce que j'essaie d'être urbaine et courtoise. Et d'un seul coup, je me suis dit, oulala, t'as un petit décalage temporel, Stéphanie. Le débat que tu animes, c'est dans le 2e Magic Mirror. Tu sais bien, celui qu'avec Bernard Vis, on a décidé de mettre en place pour offrir encore plus de débats et de rencontres à nos auteurs. Donc voilà, mes petites excuses légèrement humoristiques. Désolé, on va rappeler aux modérateurs et aux auteurs que le Magic Mirror numéro 2, c'est ici. Et je le découvre, je l'ai vu de l'extérieur, il est magnifique. Il est magnifique. Et quand je pense à nos lycéens, à nos collégiens qui seront là cet après-midi pour la remise des prix Imaginales des collégiens et des lycéens, et puis au concert de samedi soir, évidemment, avec le donjon de Naël Buck, à tous les débats, je me dis, waouh, vraiment, on a de la chance. Voilà. Le festival prend de la place, et puis j'espère que vous allez y prendre en tout cas autant de plaisir que les autres années. Alors, en attendant que Paul Carta arrive, le voilà, justement, le troisième invité, que lui aussi découvre où est le chemin du Magic Mirror numéro 2. On va donc aborder une question temporelle, c'est-à-dire un thème très classique de la science-fiction, qui est le voyage dans le temps. Et tout seigneur, tout honneur, je vais évidemment d'abord donner la parole et interroger Robert Charles Wilson, que je remercie très chaleureusement d'être présent aux Imaginales. D'abord parce que c'est une des grandes signatures de la science-fiction anglo-saxonne d'aujourd'hui. Parce que c'est un auteur qui a mis ses pas dans les autres auteurs qui l'ont précédé, dans la tradition, tout en étant capable de renouveler profondément des thèmes classiques. Et puis qui sait raconter, ce qui n'est pas le cas toujours de la science-fiction, il faut bien le reconnaître, des histoires avec des personnages, avec de l'humanité, avec des gens finalement qui ne sont pas des super-héros, mais des gens qui vivent comme vous et moi, avec l'envie de faire des choses sympas, de réussir des choses dans la vie et avec les autres, et puis qui ne sont pas toujours à la hauteur, qui essaient de se débrouiller. Voilà. Et c'est cette humanité profonde qui fait que des gens qui n'aimaient pas la science-fiction, quand je ne sais pas qui leur conseiller, je leur dis, mais évidemment, lisez Robert Charles Wilson, et pour ça, je tiens à lui dire un immense merci. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ses livres, vous avez vraiment de la chance parce que vous allez découvrir un écrivain de science-fiction fabuleux, y compris ceux d'entre vous qui ne voulaient pas en lire jusque-là. Vous n'imaginerez même pas que c'était l'image que vous aviez de la science-fiction. Après ce petit hommage, mais vraiment j'y tenais beaucoup. J'y tenais beaucoup tout simplement parce que j'ai moi-même été un peu en retard. On m'a dit « Oh, c'est très classique, Robert Charles Wilson, non, etc. » Et je l'ai lu. Dès que j'ai lu le premier livre, je me suis dit « Ouh là là, honte à moi ». Et évidemment, je vais me rattraper, je vais l'inviter immédiatement aux Imaginales pour que la découverte que j'ai faite, elle soit aussi la vôtre. Après cette introduction, peut-être un peu longue, mais qui était un hommage auquel je tenais, on va dire quelques mots sur un de ses livres, Les Chronolithes. Alors, on est en Thaïlande, beau pays, pays où j'ai l'occasion d'aller, donc je vous dis c'est un beau pays, si un jour vous avez l'occasion de voir. Et donc on décrit, c'est un Américain un peu décalé, comme tous ces personnages, qui est en Thaïlande, il vivote, il bosse, il a des problèmes avec son ex-épouse, gamine plutôt. Et puis voilà, c'est un brave type plutôt, mais bon, un peu aux limites de la loi, sans être un délinquant, il a un pote pas très net. Et ils vont être sur place, les hasards de la vie, au moment où va surgir le premier chronolithe. Une sorte d'obélisque gigantesque, en métal, ou un objet en tout cas qu'on n'arrive pas à percer, et qui célèbre la victoire de Q1. Le problème, c'est que vous, comme les personnages, vous ne connaissez pas Q1. Et évidemment, vous ne le connaissez pas parce que ça sera dans le futur. La victoire est annoncée pour dans, je ne sais plus si c'est 20 ans ou 30 ans. Et ça commence comme ça très fort. Très rapidement, un deuxième monolithe, encore plus puissant, qui commence à faire des dégâts, va apparaître dans un autre pays. Et puis progressivement, c'est toute la planète qui va être contaminée avec des chronolithes de plus en plus destructeurs qui détruisent des quartiers entiers. Et on sait bien que la menace qui frappe ailleurs va venir aux États-Unis maintenant. Et voilà, qui est Q1? Est-ce que c'est un sauveur d'une humanité dans le malaise et dans la douleur? Est-ce que c'est un dictateur abominable? Est-ce qu'on peut arriver à le vaincre? Ou est-ce que ces victoires, puisque c'est celle du futur, ne sont pas possibles à repousser? Est-ce qu'on peut inverser le temps? Et est-ce que c'est écrit? Voilà la question. Et derrière ça, il y a tous ces personnages. Alors, Robert Charles Wilson, pourquoi avez-vous décidé de reprendre un thème aussi classique et que jusqu'à ce que vous fassiez ce livre, on croyait aussi éculé que le voyage dans le temps?
Well, that's an interesting question. I hope I have an interesting answer for it.
C'est une question intéressante. J'espère que j'ai une réponse intéressante à vous faire.
Time travel to me is one of the it's as you say a classical theme in science fiction. In fact, I would say it's one of the foundational ideas of science fiction.
Comme vous le dites, le voyage dans le temps, c'est un thème classique de la science-fiction. Je pense même que c'est d'ailleurs un des thèmes fondateurs du genre.
The paradox, of course, is that there's nothing very scientific about the notion of time travel. We have no prospect of traveling in time. And so far as we know, it isn't possible.
Ce qui est, je trouve qu'il est intéressant, qu'il y a un paradoxe avec le thème du voyage dans le temps, c'est que actuellement, on ne sait rien de vraiment très scientifique sur la faisabilité du voyage temporel. On n'a pas vraiment de perspective pour le rendre possible. On ne sait même pas s'il l'est vraiment.
But it was H.G. Wells, I believe, who said that in writing, as it was called in those days, scientific romances, you're allowed one miracle, but only one.
Mais c'est H.G. Wells, je crois, qui disait, quand il écrivait à ce qu'on appelait à l'époque des romans scientifiques, il disait, on a le droit dans les livres à un miracle.
And time travel is the miracle that opens so many doors. It's an idea that's difficult to exhaust. I don't think it's an idea that gets old.
Donc le voyage temporel, ça fait partie par exemple de ce miracle auquel on a droit dans un récit, mais c'est un miracle qui ouvre tellement de portes que c'est vraiment fascinant. Je pense que c'est d'ailleurs une idée qu'il est difficile d'épuiser en réalité, tellement elle ouvre de portes.
When I wrote the Chronoliths, one of the themes I was trying to address was the way in which our expectations of the future shape the future.
Un des thèmes que je voulais traiter quand j'ai écrit les Chronolithes, c'était que la façon dont nous attendons à l'avenir, ce que nous attendons de lui, finalement, le forge en un sens.
So much of our culture, it seems to me, consists of ideas that have been externalized and made real. A city is a collection of ideas embodied in concrete and stone and wood.
Une grande partie de notre culture finalement est constituée d'idées que nous rendons possibles et nous concrétisons, que nous externalisons et que nous faisons devenir réelles. Une ville par exemple, ce n'est jamais qu'une collection d'idées que nous incarnons dans le verre, le béton, le bois, etc.
And in the Chronoliths, what I wanted to do was play with the idea of a kind of feedback loop in which not only do our notions in the present inform the future, but the future could talk back to the present.
Et ce que je voulais faire avec les chronolithes, une des choses, c'était effectivement de jouer avec l'idée que l'avenir, finalement, est une espèce de boucle de rétro-contrôle, où le présent informe le futur, mais où également le futur peut parler au présent.
And in fact, it works the way a feedback loop works in an amplification system. You know, if I put the microphone in front of the speaker, there would be the squealing sound with the, you know, the any incidental sound would be amplified and amplified again and amplified again catastrophically. And that's kind of what I wanted to play with in the Chronoliths.
La façon dont ça marche, en fait, avec cette boucle de rétro-contrôle, finalement, qui simplifie elle-même, c'est un peu comme quand on place un microphone devant un haut-parleur, où on a cette espèce de son très aigu qui arrive, et où tout son ambiant va être récupéré et amplifié encore. C'est un peu ce que je voulais faire dans ce livre.
Un tout autre univers. Les formes arrêtées. Qui êtes-vous? Les formes grotesques se figèrent. Dans le silence oppressant, elles semblèrent communiquer dans un mystérieux langage muet. leurs têtes tournées les unes vers les autres. Puis l'être le plus proche d'elle leva les mains et sous ses yeux horrifiés se saisit de sa tête, qui se sépara du reste du corps avec un chuintement qui sembla résonner dans toute la vallée. Elle recula, le revolver toujours levé devant elle. La silhouette avait enlevé une sorte de casque, et dans le clair-obscur qui lui faisait cligner des yeux, elle distingua le visage d'une jeune femme, blonde, aux cheveux coiffés à la garçonne, qui l'observait avec un sourire. Et soudain, du globe brillant qui lui tenait lieu il y a quelques instants encore de tête, une voix masculine avec un étrange accent s'éleva. « Historienne, faites attention, je crois que c'est une arme. » Ou du moins, c'est ce qu'il lui sembla comprendre, tant l'accent et même les mots sonnaient étrangement à ses oreilles. Sans tenir compte de cet avertissement, la jeune femme au corps si disgracieux reprit sa marche vers elle, arborant toujours ce sourire chaleureux. Elle leva alors le revolver devant ses yeux et visa le visage d'autant plus effrayant qu'il était avenant. « N'avancez pas, je vous préviens !» Soudain, elle sentit ses bras devenir lourds, ses doigts fourmiller, ses jambes fléchir comme si elle était épuisée. Du coin de l'œil, elle vit un de ces êtres brandir un objet dans sa direction, un objet qui émettait un étrange bourdonnement. « Non !» cria la jeune femme en se tournant vers ceux qui la suivaient. « On ne sait pas ce que ça peut lui faire !» Elle tenta de crisper ses mains sur le revolver, de relever l'arme, mais elle s'écroula contre la portière, glissant contre la carrosserie. Comme dans un rêve, elle vit la jeune femme se précipiter vers elle, avec des mouvements étrangement décomposés, et la prendre dans ses bras. Clignant des yeux, elle tenta de scruter les intentions de ce beau visage, qui se penchait sur elle avec une expression angoissée. Et soudain, de ses fines lèvres blanches sortirent des paroles. Une question qui lui parut incongrue, qui sembla mettre une éternité à se frayer un chemin jusqu'à son cerveau. « Ne vous endormez pas. D'abord, dites-moi, comment vous appelez-vous ? » Elle observa le visage qui paraissait authentiquement inquiet, le sourire crispé qui essayait de lui transmettre un peu de chaleur. Rassemblant toutes ses forces, elle ouvrit une bouche pâteuse et répondit « Mon nom est Agatha, Agatha Miller Christie. » Un des extraterrestres enlève Agatha Christie. Abduction. Et toutes ces histoires qu'on raconte, surtout aux États-Unis d'ailleurs, Paul Carta. Et là, c'est un écrivain français donc, qui nous raconte. On est en 1926 et peut-être que les amateurs de romans policiers qui connaissent l'œuvre d'Agatha Christie le savent. En 1926, Agatha Christie a disparu une huitaine ou une dizaine de jours. Et même si aujourd'hui on a de forts soupçons, on n'a jamais eu de preuve, en tout cas, d'explication officielle de ce qu'elle a pu faire pendant sa disparition. Et ça a visiblement beaucoup amusé Paul Carta, qui s'est glissé dans ce trou temporel et qui a imaginé que ces 10 jours, Agatha Christie les a passés non pas aux mains d'extraterrestres, on va le découvrir très vite, mais en fait de lunaires qui sont sur une base, parce que la Terre du futur, ça a mal tourné, décidément, on commence à s'en inquiéter, et nos descendants sont partis les uns sur Mars, les autres sur la Lune, en attendant que la Terre soit un jour à nouveau habitable. Seul problème, d'où le titre, crime temporel, un martien, alors qu'il y a des conflits assez forts entre les lunaires et les martiens, un martien est assassiné dans ce monde qui n'a pas connu de crime depuis toujours, qui ne sait même pas ce que c'est que la violence, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un assassinat, et donc, historienne, on l'appelle par sa fonction, passionnée par le passé de la Terre, passionnée par le roman policier, par Agatha Christie, a une idée de génie pour un crime. Qui est-ce qui peut être la meilleure enquêtrice dans le passé? On va aller la chercher, c'est évidemment Agatha Christie. Et voilà comment débute le roman de Paul Carta. Alors, vous aussi, Paul Carta, d'où vous est venue une idée aussi saugrenue et aussi amusante?
Oui, c'est une histoire amusante, parce que je pense que ça se voit en écoutant le pitch, on sourit obligatoirement. Mais ce que j'ai toujours aimé Agatha Christie depuis tout petit, depuis que je l'ai découverte, je ne sais même plus si c'est en film ou avec Mort sur le Nil, avec Peter Ustinov, ou avec d'autres. Et j'ai toujours voulu écrire un roman policier, c'est-à-dire un roman policier à l'Agatha Christie, un whodunit, avec le coupable découvert seulement à la fin, au dernier chapitre. Ensuite, plus tard, j'ai appris qu'Agatha Christie avait effectivement disparu pendant 10 jours. On en a fait un film avec Dustin Hoffman, Vanessa Redgrave, etc. Et petit à petit, c'est combiné, mais pendant plusieurs années, l'idée de transporter Agatha Christie dans un univers de science-fiction qui ressemblerait à Asimov, c'est-à-dire aux cavernes d'acier, à Face au feu du soleil, à tout le cycle d'Elijah Bellé, que j'ai découvert ensuite, bien sûr, en même temps, et donc de mélanger à la fois le roman policier pur et la science-fiction.
Là aussi, vous pourrez le voir sur la table tout à l'heure, une magnifique illustration due à Manchu, qui a fait une des affiches du festival. Donc, crime temporel. Pourquoi le voyage, un petit peu comme j'ai posé la question tout à l'heure, Robert Charlouson, pourquoi un écrivain de la jeune génération, de la génération actuelle de la science-fiction, trouve-t-il un thème comme le voyage temporel, ou plus exactement, parce qu'on est quand même bien dans le voyage temporel, même s'il y a une part de roman policier, découvre-t-il un thème classique de la science-fiction ? A-t-il envie de le réactualiser, de le moderniser, de le réutiliser ? Est-ce que ça a encore des choses à nous dire, un thème qu'on croyait ou encore une fois aussi éculé ?
Je pense que de toute façon, tant qu'il y aura de la science-fiction, il y aura toujours des voyages temporels, à mon avis, c'est-à-dire des gens qui seront transportés dans un autre futur ou dans un passé et qui découvriront des choses. Je crois que c'est la meilleure manière de découvrir une autre société, de se poser des questions sur la nôtre, soit en allant dans le passé et en essayant d'appliquer nos référents à d'autres, soit en allant dans le futur. Et c'est ce que fait Agatha en se disant, puisque son fonds de commerce est le crime et qu'elle va dans une société où le crime n'existe plus, est-ce qu'elle peut accepter cette société où on a fait des choses pour que le crime n'existe plus, bien sûr, on a privé peut-être les gens d'une certaine liberté, et donc à ce moment-là, elle doit elle-même se poser des questions, est-ce que je suis capable d'accepter cela ? Ces référents de 1926 par rapport à ceux d'un futur qui est en 2400 à peu près, c'est toujours une question intéressante. C'est un petit peu de toute façon l'image pour moi du Candide, de la personne comme l'amnésique. On utilisera toujours, je pense, dans les romans le thème de l'amnésique. C'est la personne vierge qui découvre un univers, on le découvre avec lui, et à ce moment-là, on est dans une identification au personnage et aussi dans sa découverte de l'univers dans lequel il est projeté.
Je dirais que c'est peut-être aussi un biais d'utiliser Agatha Christie, l'enquête policière, comme je le disais tout à l'heure en concernant Robert Charlouson. C'est peut-être aussi la façon d'utiliser un autre univers, une enquête policière, un personnage connu, parce que ça donne peut-être envie aussi de lire à des gens qui sinon n'auraient peut-être pas lu un livre de science-fiction et sur le voyage temporel.
Oui, tout à fait. Dans beaucoup de salons, quand j'interviens effectivement dans des cafés littéraires, je parle très peu de mon livre, en fait je parle d'Agatha Christie, je parle de sa vie que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc je leur dis qu'elle faisait du surf à l'âge de 20 ans, qu'elle a voyagé dans le monde entier, je leur apprends plein de choses sur Agatha Christie, puis après au bout d'un moment je dis bah, c'est pas une biographie, attention, c'est un roman de science-fiction, etc. Tout ce que je dis sur Agatha Christie est totalement vrai, donc effectivement les gens en lisant apprennent énormément de choses sur sa vie, sur ses relations avec son mari, son ex-mari, bientôt son nouveau mari, sa fille, etc., etc. Mais en même temps, son projet dans une histoire de science-fiction. Oui, ça leur fait peut-être découvrir, tant mieux, la science-fiction et le voyage temporel. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un univers littéraire que j'ai voulu recréer. C'est pour ça qu'il y a des épigraphes où on a toujours des extraits de, voilà, des romans d'Agatha Christie, beaucoup de paroles d'Hercule Poirot, de Hastings, de Miss Marple, etc., de Tuppence et Tommy, c'est-à-dire de tout l'univers chrétien. Et j'ai voulu vraiment que ce soit un petit patchwork littéraire de l'univers d'Agatha Christie.
Oui, j'avoue que je me suis beaucoup amusé, alors qu'au départ, j'ai regardé, bon, on va voir. Et puis voilà, ça a marché, la preuve, vous êtes là. Une vraie star, bon d'accord, vous n'avez pas l'air, mais une vraie star de la littérature jeunesse.
Je peux avoir l'air
vraiment,
éventuellement.
Absolument, on fait Cannes, les descentes et tout. Donc, combien plus. Peut-être le Pierre Pelot de la littérature jeunesse, c'est un compliment parce que c'est d'abord un grand auteur.
Ah oui, ça c'est un sacré compliment.
Et puis beaucoup de livres, quand même plus de 200, je crois.
Oui, plus de 200. Essentiellement jeunesse, mais enfin quand même une 30-40 adultes.
Ah, non, moi je connais une Anne Duguel, mais je ne connais pas Gudule.
Ah, mais Anne Duguel, je l'ai suicidée il y a quelques années parce que, à la demande d'un éditeur d'ailleurs, à la demande de Jacques Chambon, qui a été mon éditeur adulte pendant des années, et qui, ayant quitté De Noël où il me publiait, est allé chez Flammarion. Or, c'était lui qui, au départ, m'avait demandé de ne pas signer mes livres adultes Gudule parce qu'il trouvait que ça faisait vraiment pas sérieux. Un nom de dessin animé, pour du fantastique, ça collait pas. Déjà, quand on n'a pas un nom anglo-saxon, ça pose problème. Mais alors, si on a un nom ridicule, ça marche pas. Et donc, on a choisi ensemble ce pseudo de Anne Duguel, qui est en fait un anagramme de Gudule. Et puis, une dizaine d'années plus tard, quand il était passé chez Flammarion dans la collection Imagine, et que je lui ai proposé, je ne sais plus quel livre, ça va me revenir, Petit théâtre de brouillard, il m'a dit, écoute, ce serait pas mal quand même que tu le signes Gudule, parce que Et on fait deux carrières parallèles. Il y en avait une qui avait marché beaucoup plus que l'autre. Et finalement, Gudule, on connaissait, Andugel, bof, bof. Donc voilà pourquoi, à partir de là, j'ai toujours tout signé Gudule, même les bouquins pour adultes.
Avec cette petite parenthèse, une façon habile de vous renvoyer au café littéraire sur Je est un autre, le pseudonyme.
Absolument.
Puisque Gudule y est invité, ce qui sera une façon de parler aussi de sa carrière d'écrivain de fantastique pour adultes, puisque là, c'est plutôt jeunesse. Alors, quand on a écrit plus de 200 romans, dans une grande majorité pour la jeunesse, on a traité à peu près tous les thèmes, y compris la littérature dirait générale, les problèmes de société, le fantastique. Pas moins la science-fiction, mais quand même, vous avez quand même publié, là aussi, un roman de science-fiction où le voyage temporel existe, qui n'est pas
oui,
si évident pour les jeunes.
Oui, dans La Fille au chien noir, voilà. Par exemple, oui, oui. C'était d'ailleurs presque à mon insu un livre de science-fiction, parce que je ne suis pas auteur de science-fiction, je suis quand même essentiellement auteur de fantastique, et d'un fantastique intimiste, pas un fantastique spectaculaire, mais plutôt qui se déroule plus... presque dans l'inconscient de mes personnages. Et puis là, oui, effectivement, ma grande surprise, c'était un livre de science-fiction. C'était un paradoxe temporel, puisque le héros fait connaissance, adolescent, de la fille de ses rêves et du chien de ses rêves. Il les rencontre comme ça, et en réalité, ils viennent de son futur, où devenu un savant... renommé, il a créé des effets pervers dans le futur qui détruiront la planète. Et c'est lui-même qui envoie ces personnages fantasmatiques qui sont en fait des robots, il les renvoie dans sa propre jeunesse pour l'empêcher de devenir un scientifique et de détruire la planète. Donc on joue... voilà.
Oui, bon. Le voyage temporel comme façon de se poser aussi une question morale et aussi peut-être pour des jeunes une question sur quel est le choix de vie. Est-ce que c'est la puissance ou le bonheur ?
Tout à fait. De toute façon, c'est le thème du livre. C'est tous ces chemins qui s'ouvrent à nous constamment, mais plus particulièrement à la fin des études, par exemple, ou au moment où il y a un choix crucial. Là, vers quoi est-ce que je vais me diriger ? J'ai plusieurs tentations. Laquelle est-ce qui me motive le plus ? Bon, c'est le problème du choix. Mais enfin, ce choix, il est là en permanence. Est-ce que maintenant, là, est-ce que je me lève et je m'en vais ou est-ce que je reste là ? Ça induira un futur différent.
T'as un intérêt aimable.
mais sinon, j'en ai fait quand même pas mal des voyages comme ça dans le temps, mais... ils sont plus subtils que celui-là. Ils sont généralement affectifs. Une petite fille qui pénètre dans le passé de ses grands-parents pour y modifier quelque chose qui, ben de nouveau, c'est toujours la modification en fait qui motive ce voyage-là. C'est que, j'ai par exemple dans le bal des ombres une adolescente qui voit mourir son grand-père. Et le problème, c'est que le grand-père n'arrive pas à passer de l'autre côté, parce que pour passer dans le... on ne sait pas trop quoi, mais le futur d'après la mort, il faut que quelqu'un vienne le chercher. Il comptait sur sa femme qui était morte, mais il se fait qu'elle ne veut pas venir le chercher parce qu'elle lui en veut pour quelque chose. Et donc l'adolescente va pénétrer dans le passé. Alors il y a toujours des moyens pour pénétrer dans le passé. Parfois c'est le sommeil, parfois c'est l'amour, parfois on trouve des moyens. Et elle pénètre donc dans le passé de son grand-père pour aller voir ce qui est arrivé là, qui motive l'horreur que la grand-mère a de son mari. Et elle le trouve, et donc elle résout les choses. Voilà à quoi servent pour moi les voyages dans le temps, essentiellement.
Et vous, Robert Charles Wilson, à quoi ça sert d'avoir mis dans Chronolithe ce personnage de Quin, de dictateur du futur ? Est-ce que c'est un reflet des peurs anglo-saxonnes, la menace qui nous vient d'ailleurs ou du futur ? Parce qu'il est quand même un peu plus ancien, ce livre. Il date de je ne sais plus quelle année déjà.
Publié en 2001 en anglais et traduit en 2003 en France.
Voilà, 2001. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et aussi peut-être Ben moi, c'est comme ça que je l'ai lu, je dirais si j'ai raison. Par rapport à l'idée où les choses sont écrites à l'avance, et où bien que le futur nous soit annoncé par ces chronolithes, il y a des personnages qui vont, et des scientifiques et d'autres, et le gouvernement, et des individus modestes, qui vont tenter d'enrayer le phénomène, ou en tout cas de s'opposer à ce que les choses annoncées arrivent, et d'autres qui vont l'appeler de leur vœu. Qu'est-ce que vous nous dites quelque part, en mettant en scène la réaction des êtres humains que nous pourrions être face à ce futur annoncé?
Well, as I conceived it, talking about time travel is like trying to untangle string in some ways.
La façon dont je l'ai conçu, en fait, finalement, parler du voyage dans le temps, ça ressemble un peu à vouloir démêler une pelote de ficelle.
But I think what I imagined was in Kuhn's mind when the first chronolith was sent back in time. Was a plot to make his victories inevitable by conquering first our expectations of the future.
Je pense que, enfin, ce que j'ai imaginé dans l'esprit de Quinn, en tout cas au tout début, quand il renvoie le tout premier chronolithe, c'est en fait son but était de rendre sa victoire inévitable, tout d'abord en conquérant nos attentes de l'avenir.
The paradox is that the nature of the victory changes because of the expectations that have been raised about it. The more fearful we become of Kuhn's future, the more fearful that future becomes. This is the feedback loop I was talking about.
Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que à mesure que la nature de cette victoire et de ces victoires change, à mesure que nos attentes de l'avenir changent, à mesure que nous craignons cet avenir en fait devient de plus en plus lui aussi craintif. Et c'est un petit peu la boucle de rétro-contrôle dont je parlais tout à l'heure.
In other words, we're talking about an escalating sequence of increasingly grim self-fulfilling prophecies.
C'est un petit peu en fait une séquence qui s'amplifie de prophéties auto-réalisées. C'est-à-dire que ces prophéties se réalisent elles-mêmes et plus elles se réalisent, plus en fait elles s'amplifient.
But on a more basic level, I think whenever we write about time travel, we're talking about basically our hopes, our fears and our memories.
Mais je pense qu'à un niveau beaucoup plus fondamental, quand on parle du voyage dans le temps et quand on en parle, finalement, au niveau très fondamental, on parle de nos espoirs, de nos craintes sur l'avenir et de nos souvenirs concernant le passé.
And really, the concept of time travel serves just to throw these things into a very sharp relief, to make them very distinct and to examine them in a way you might not be able to do in a mainstream novel.
En fait, finalement, le concept du voyage dans le temps, et quand on en parle, c'est tout simplement prendre ces choses-là et les mettre avec un relief très acéré, très, très en avant, d'une façon qu'on ne pourrait pas faire dans un roman de littérature générale.
Paul Carter, vous traitez, on voit bien, complètement différemment des préoccupations de Gudule et de Robert Charles Wilson. On l'a dit dès le début, y compris avec l'extrait, c'est cette passion d'Agatha Christie, de l'enquête policière, du whodunit, etc. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, entre autres dans le début du roman, c'est que passé le premier choc et la première surprise, je trouve qu'Agatha Christie, c'est peut-être aussi beaucoup d'admiration pour elle que vous témoignez ici, elle s'adapte quand même extrêmement vite à un monde très différent. Est-ce que vous pensez vraiment, et que c'est ça que vous nous dites, qu'un être humain projeté dans un monde très différent, 100 ou 200 ans plus tard, finalement, il a une telle capacité d'adaptation qu'il pourrait réussir?
Les gens du 20e ou du 19e, avec l'idée que le progrès est exponentiel, oui, je pense qu'Agatha Christie, qui a traversé le bush australien, qui est allée dans plein d'endroits différents, oui, elle, je pense, dans ce que j'ai lu de ses biographes ou de son autobiographie, je pense qu'elle se serait adaptée assez rapidement. Soyons clairs aussi, elle arrive dans une société très intimiste, il n'y a que 8 personnes, il y a une petite fille dont il faut bien s'occuper. Je l'ai quand même mise dans une sorte de cocon. Familiale qui dit simplement que de toute façon que la vie est la vie et qu'elle continue toujours de la même façon malgré les ordinateurs qu'elle ne connaît pas, malgré des écrans de télévision partout, ou des hologrammes, etc. Tout ce qu'elle voit autour d'elle ne sont que des projections de ce qui est plausible déjà à l'époque. N'oublions pas aussi qu'Agatha Christie aimait beaucoup la science-fiction, de Wells et de Jules Verne, bien sûr, à l'époque, et qu'elle voulait en écrire, même si ça ne s'appelait pas science-fiction, puisque, autre coïncidence, c'est en 1926 que naît le mot science-fiction au moment où elle disparaît. J'aurais pu broder là-dessus. Mais voilà, donc c'est... Non, je pense que des gens, nous, des gens du... Pris dans la notion de progrès, oui, je pense qu'on arriverait à se faire assez rapidement à d'autres conditions. On y arrive tout simplement en ouvrant des livres de science-fiction. Et en... je sais pas, même si... D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre, c'est que même si on prend des livres écrits il y a 50 ans, on continue à les lire. Pourtant, tout ce qu'ils disent scientifiquement est dépassé, mais on arrive à se replonger dans l'idée qu'on se faisait du futur à l'époque. Donc on est dans une sorte de... de mise en abîme de notre imaginaire et de la, des potentialités.
Oui, univers intimiste, mais vous disiez tout à l'heure, Gudule, chez vous aussi, quand vous utilisez, vous l'avez dit très clairement, vous, bon, on sait que vous êtes, hein, je renvoie à votre intégrale en particulier de, des romans d'horreur chez Bragelonne, une belle édition, comme parfois ce que fait cet éditeur. Vos romans jeunesse, quand vous utilisez la science-fiction, quelques romans, pourquoi en effet plutôt le voyage temporel? Parce qu'on en revient au sentiment et à ce qu'est la vie, c'est ça que vous disiez?
Oui, on en revient surtout à cette curiosité que nous avons tous du passé des êtres qu'on aime. Quel est l'enfant qui ne s'est pas posé des questions sur le passé de ses parents, leurs rencontres, leurs émotions ou de ses grands-parents? Donc c'est très familial toujours chez moi ce désir de remonter le passé ou de connaître l'homme qu'on aime quand il était un enfant. On peut très bien vivre avec quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il trimballe des casseroles, un grand traumatisme, et avoir envie comme ça tout d'un coup de le connaître enfant et d'aller découvrir les sources de ce traumatisme et éventuellement de l'empêcher. Je crois c'est de la curiosité, c'est chez moi peut-être un amour maternel pour les êtres qu'on aime et qui sont de votre âge, mais qui ont été des enfants. Quelque part, le temps n'existe pas, il n'y a que les êtres qui existent. Quoi. C'est ce qu'on peut retirer de ce que j'écris, c'est que tous les êtres sont sur le même plan, mais les uns ont un passé, et les autres sont intrigués par ce passé. Et puis si ça pouvait se rencontrer, ça serait vachement bien, quoi. En gros.
Je pensais en lisant, bien sûr, Chronolithe, puisque là on est dans un débat sur le voyage temporel, mais aussi vos autres livres, Robert Sean Wilson. Je pensais à ce que j'avais d'ailleurs dit, il va être surpris, à Lionel Davoust, qui, outre traducteur, j'en profite parce que je l'ai fait pour Sylvie Miller hier, je le remercie pour tout le travail qu'il fait avec nos auteurs anglo-saxons. C'est vraiment la chance des Imaginales, c'est d'avoir une équipe de traducteurs aussi géniaux que sympathiques. J'en profite pour les faire rougir, mais tant pis. Je disais à Lionel que la fantaisie qu'il écrit, parce que c'est un jeune auteur de fantaisie aussi très brillant, il va rougir vraiment, mais tant pis. Il présentait des personnages, des êtres humains qui couraient un peu comme des fourmis dans les espaces du monde global, dans les interstices de l'histoire collective. Et c'est ce que je ressens dans la science-fiction de Robert Charles Wilson. J'ai l'impression que vos personnages, ils sont souvent dépassés par l'ampleur des événements collectifs auxquels ils sont confrontés un peu par hasard. Ils essaient parfois de s'en accommoder, parfois de s'en échapper, et puis parfois, ils courent, comme je le disais, dans les interstices, mais l'ombre les rattrape. Et c'est ce mélange, j'ai l'impression, en particulier dans Chronolithe, entre ces personnages humains avec leurs faiblesses et leurs difficultés, c'est pas des super-héros, comme je le disais au début, et l'ampleur des bouleversements que QA annonce. Est-ce que c'est pas ça aussi votre science-fiction, et entre autres, la façon dont vous utilisez la question du temps?
Well, I think that's true. There's a tendency, at least in the American science fiction tradition, to write about characters who understand and control events.
Alors, tout d'abord, je reprends ma propre voix pour remercier Stéphanie. Je reprends celle de Jean-Robert Charles Wilson. C'est vrai en un sens. Effectivement, il y a une tendance, en tout cas du moins dans la tradition science-fictionnelle américaine, d'utiliser, d'avoir des personnages qui cherchent à comprendre et peut-être à contrôler les événements.
But that's obviously not how we experience history. Most people experience history as external and confusing. It's not when we read history, we get a diagrammatic understanding of the past. When we experience history, it's chaotic and unsettling and disturbing. And I wanted to write my books from the point of view of people who are immersed in the events but don't necessarily understand or control them.
Mais en fait, ce n'est pas donc cette face au contrôle, hein, ce n'est pas la façon dont on vit l'histoire, en fait. Quand on la vit, elle est externe pour nous, et en d'une certaine façon aussi, elle nous embrouille beaucoup, elle est très confuse. Quand nous lisons l'histoire, nous la comprenons sous une façon très synthétique, un peu comme un diagramme, alors que quand nous la vivons, elle est dérangeante, elle est chaotique. Et c'est un petit peu effectivement ce que j'ai envie de faire, c'est de parler de personnages qui sont immergés dans ces événements, qui les vivent de façon un peu chaotique, qui sont immergés et qui essayent de les comprendre.
Paul Carta, Agatha Christie, quand elle est dans cet univers du futur, elle essaie de comprendre le crime qui s'est déroulé, qui a justifié son transfert temporel. Mais finalement, est-ce que cette société future, cette historienne, elle ne confond pas, comme nous parfois, la réalité et la fiction ? Une enquêtrice policière réelle et puis un auteur de romans policiers.
Oui, je crois. Oui, non, de toute façon, il y a aussi l'idée que, n'oublions pas que cette machine à voyager dans le temps qu'ils utilisent, c'est un prototype. Ils savent pas du tout, ils savent pas très bien comment ça fonctionne. Et tout ce qu'ils ont ramené vivant pour le moment, c'est une poule. Et Agatha Christie est censée être le premier être humain. Et c'est un test, vraiment. Ils ne savent absolument pas si ça va fonctionner. Donc, en fait, oui, elle est aussi dans un fantasme de l'Agatha Christie, mais nous, on l'a tous. On a l'image de l'Agatha Christie, vieille douairière avec la tasse de thé. On a toujours une image de ces auteurs. Si on prend l'image d'Épinal, puisqu'on est là, Victor Hugo, il ne ressemble pas du tout, certainement, au Victor Hugo réel que l'on aurait pu côtoyer. Et quant au crime, naturellement, que je raconte, c'est un crime à la Agatha Christie, bien sûr. Alors, il n'a pas du tout de rapport avec un crime commis dans les CSI, dans Les Experts, ou dans une autre série américaine, ou dans Seven de Fincher. C'est un crime à la Agatha Christie. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est tout en restant très, très fidèle et en étant sérieux, ce qui était le plus dur, je crois, peut-être, parce que, bon, on a bien compris que c'est quand même une sorte de... dommage, un peu parodique, mais c'est pas une parodie dans le sens où c'est drôle, c'est une sens où je voulais être le plus sérieux possible. Je voulais vraiment rentrer dans l'univers textuel d'Agatha Christie, c'est-à-dire faire une forge. Je crois que c'est Grémas qui utilisait ce terme, c'est-à-dire vraiment une parodie sérieuse, rendre un hommage littéraire à Agatha Christie, et on est là dans un univers littéraire, mais comme je crois dans beaucoup de bouquins de science-fiction, comme dans, pour moi, c'est peut-être pas pour tout le monde. Umberto Eco est un écrivain de science-fiction. Le Pendule de Foucault, où on recrée l'univers par l'idée. Et de la science-fiction, c'est un peu ce que j'ai voulu faire là-dedans.
Gudule, vous avez écrit donc quelques livres de science-fiction pour jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes aussi une lectrice de science-fiction, de ces idées de parallèles temporelles ou pas du tout ?
J'ai été dans ma jeunesse très très lectrice de science-fiction. Je le suis moins, beaucoup moins. Je suis plus tentée par le fantastique que par la science-fiction. Peut-être parce que je suis plus une rêveuse qu'une scientifique, je pense. En tant qu'auteur, je n'écris pas de science-fiction, ou très très peu, mais c'est plutôt de la société-fiction à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est simplement le fait de projeter des caractéristiques souvent révoltantes de la société d'aujourd'hui, de les pousser dans leur logique qui vous amène, bon, c'est ce que font tous les auteurs de science-fiction, mais disons que moi, tout ce qui est scientifique me passe un peu au-dessus, je ne suis pas du tout une scientifique, donc c'est plutôt des phénomènes de société qui m'intéressent. J'en ai fait relativement peu. Si, j'en ai écrit l'un ou l'autre là dans ces livres-là. Mais ce sont des petites histoires. Et c'est vrai que le fait d'être auteur pour la jeunesse m'oblige presque à rester toujours parfaitement compréhensible par tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas du tout lecteurs de science-fiction. Voilà.
Robert Charles Wilson, aujourd'hui, on sait bien, c'est l'objet d'un des débats des Imaginales, qu'il y a vraiment une force, une puissance et un écho donné à la fantasy. Entre autres, en France, la science-fiction en ce moment, on peut dire qu'elle a quelques difficultés parfois, même s'il y a toujours d'excellents livres. Et vous êtes quand même un des auteurs contemporains de science-fiction qui avait un vrai succès. Même si en France, il est venu un peu tardivement, je crois que vous n'avez peut-être pas eu les bons éditeurs au bon moment, mais en tout cas, les éditeurs comme De Noël aujourd'hui ont su mettre en valeur votre travail, vous donner l'opportunité de toucher un vaste lectorat, et ce n'est pas un secret de révéler que vos livres aujourd'hui en France, entre l'édition grand format et l'édition poche, on est plutôt dans les 40 et 45 000 que dans les 5 ou 6 000, hein, vraiment. Donc on est vraiment dans des chiffres qui, dans la réalité aujourd'hui de l'édition, sont des chiffres extrêmement solides. Et je pense qu'avoir les échos que j'ai de lecteurs qui viennent de vous découvrir, je pense que c'est plutôt vers une augmentation de ces chiffres que vous allez aller dans les années à venir, et je m'en félicite. Pourquoi justement vous avez quand même, à une période où la fantaisie, il y a un appel d'air, c'est clair, pour les écrivains, un tel amour pour la science-fiction, et pourquoi vous êtes, je n'ai pas vu encore de texte fantaisie, peut-être que vous en écrit quelques-uns, mais pourquoi vous êtes fondamentalement, en tout cas, si ce n'est pas uniquement, un auteur de science-fiction assumé, mais qui néanmoins essaie de toucher le plus vaste public?
Well, I think science fiction has damaged itself in many ways by talking to a core audience. A hardcore.
Ah, core, je pense que finalement la science-fiction s'est nuit elle-même d'une diversité de façons en s'efforçant de ne parler qu'à un noyau de public.
I dislike the idea that there is no mainstream audience for science fiction because we're I've heard people say that that science fiction is too smart for a general audience.
Je n'aime pas l'idée qui consiste à dire qu'il n'y a pas de public dans le lecteur de littérature générale pour la science-fiction. Je n'aime pas entendre les gens dire que la science-fiction est en gros trop intelligente pour eux.
And I very much disagree. I think that the first people who wrote what we consider modern science fiction, people like Jules Verne and H.G. Wells, weren't writing for a dedicated audience of people who had certain expectations. They were writing for people who simply found these ideas fascinating.
Et cette idée donc que la science-fiction est trop intelligente en un sens, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Je pense que les premiers écrivains à écrire de ce que nous appelons la science-fiction moderne en un sens, donc des gens comme Jules Verne et H.G. Wells, ils n'écrivaient absolument pas pour un public dédié et un genre de noyau de public, comme je disais tout à l'heure. Ils écrivaient pour des gens qui trouvaient tout simplement ces idées-là fascinantes, en fait.
I understand that not everyone who reads my books has some complex understanding of the scientific notions that might be behind them. But I also, I really don't want to condescend to a general audience because I think people in general are people who read are smart people, and they're willing to look at stories that are fresh and novel as long as we aren't speaking a language they don't understand, as long as we address universal concerns, as long as we don't speak in science fiction code.
Donc je n'aime pas l'idée qu'en fait que les gens qui lisent donc de la science-fiction donc disent que c'est une littérature pour gens intelligents. Je ne veux pas, je voudrais éviter que le fait que les écrivains de science-fiction écrivent justement pour les gens seulement qui la comprennent. Je ne veux pas être condescendant envers le public non plus. Je pense que finalement, les gens qui lisent sont, en un sens, des gens intelligents. Donc je ne veux pas être condescendant avec eux, mais je ne veux pas non plus faire en sorte d'écrire en code science-fictionnel. Moi, je pense que les gens sont prêts à lire des histoires tant que des histoires qui sont rafraîchissantes, novatrices en un sens, tant que je pense qu'ils sont prêts à traiter ces idées, tant qu'on parle un langage qu'ils comprennent, qu'on ne leur parle donc pas en code, tant qu'on leur parle d'idées qui sont universelles et qui s'adressent à notre conscience de façon universelle, et tant qu'on leur parle d'une façon qui est compréhensible pour eux.
The reason I'm loyal to science fiction is that these ideas still fascinate me, And I think the best way to communicate with an audience is to share that fascination.
Si je suis loyal à la science-fiction, en fait, c'est parce qu'en un sens, ces idées me fascinent toujours. Et que la meilleure façon de communiquer avec le public de la science-fiction, avec le public qui lit les livres, c'est tout simplement de faire passer cette fascination aussi.
Je crois que vous y réussissez fort bien, Robert Charles Wilson. Et je vous propose donc de retrouver nos trois auteurs sous la bulle du livre. Gudule, donc, pour ses romans de paradoxe temporel jeunesse, mais aussi tout son fantastique, parce qu'elle l'a rappelé, c'est avant tout un auteur de fantastique. Avec Paul Carta, qui propose plusieurs romans de science-fiction, mais en particulier Crime temporel, cette fascinante enquête d'Agatha Christie dans notre futur. Et puis Robert Charles Wilson, avec l'ensemble de ses œuvres, mais particulièrement les chronolithes dont on vient de parler aujourd'hui. Merci à vous trois.